Bienvenue sur le podcast. Le podcast de trouver objet caché. www.tentaculess.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Fengloui Wolf.
Fengloui, bon.
Maîtrisez le poulpe. Pour ce deuxième poulpcast, nous allons nous concentrer sur ce qui fait la particularité, sur ce qui fait les particularités de l'appel de
Cthulhu,
n'est-ce pas? Car une partie de l'appel est une partie de jeu de rôle bien particulière. En effet, il y a beaucoup de caractéristiques qui font une partie de l'appel, l'enquête et tout ça, l'horreur, la santé mentale et tout ça. Bon, enfin, on va vous le détailler. Mais le principe va être de vous citer par le menu tout ce qui est caractéristique d'une partie, ce que vous devrez intégrer dans votre partie si ce n'est pas encore fait. Car je vous le rappelle, Toc a l'immense honneur et privilège de vous dispenser le savoir ultime qui vous permettra de faire toutes vos parties sur la session. Le savoir impie que nous obtenons grâce au sacrifice. Première chose, les façons de jouer. En effet, l'appel de Cthulhu est un jeu aux règles simples, à l'ambiance assez simple, au monde finalement assez proche du nôtre, beaucoup d'époques, beaucoup de façons de jouer. La première, nous allons parler de l'enquête à la Sherlock. L'enquête à la Sherlock possède une caractéristique principale, c'est qu'elle n'intègre pas de mythe de Cthulhu. Elle n'intègre pas du tout du mythe, pas de créature.
Ou très peu, on peut mettre un petit peu quand même.
Ou très peu, mais vraiment, vraiment en filigrane. Hein. C'est un meurtre sanglant à élucider, une enquête avec un peu peut-être de l'espionnage, des choses comme ça, quelque chose de très, très dosé, très enquête.
Pas forcément avec une grosse évidence du mythe au départ, genre vous débutez dans le village des profonds par exemple.
Voilà, faire débuter une enquête à la Sherlock et à Arkham peut être assez malvenu. Surtout qu'il n'est pas forcé, et on ne le conseillera pas dans cette façon de jouer, d'incorporer beaucoup de créatures. Le complot va être principalement humain, axé sur des personnages non-joueurs, donc les fameux PNJ, qui ne sont pas forcément des spectateurs voués à la destruction du monde et ayant des hordes de personnes à leur service, se déhanchant nus et de façon obscène autour d'hôtels, à la lune, blafarde sur les hôtels sur lesquels ils s'en coulent. Non, là, nous avons affaire à des gens un peu comme vous et moi, enfin, surtout comme toi, Wolf, qui complotent contre partie ou je dirais l'humanité entière, mais peu de mythes, peu de confrontations.
Peu de mythes, ouais, peu de confrontations, ouais, effectivement. C'est-à-dire que les personnages joueurs auront le temps d'enquêter. On leur laisse beaucoup plus de champ libre. C'est plus analyse de crime. Ils vont pas forcément vivre le crime immédiatement, se taper la course poursuite avec un des méchants, carrément le criminel qui a assassiné sauvagement cette.
Tout à fait. On va commencer en douceur. On va poser une grosse ambiance parce que ça va être énormément basé sur l'ambiance. Et les PNJ qui vont passer, du fait qu'ils ne seront pas caractéristiques du mythe, vont peut-être passer inaperçus et on va se mettre à douter de personne et de tout le monde. C'est vraiment, c'est assez fin, ça se reporte à beaucoup d'ouvrages d'enquête, je sais pas, comme les Agatha Christie, ce genre de choses. Et le fait que vous jouez à l'appel, c'est toujours sympa parce que les gens vont peut-être imaginer qu'il y a quelque chose de mythe derrière et vont essayer de le trouver alors que ce n'est pas le cas.
Et du coup, ouais, ils seront dans une certaine attente, anticipation. Quand est-ce que ça pète? Quand est-ce que ça déraille vers le fantastique, vers le mythe, quoi?
Le joueur, enfin, le gardien va se délecter de cette attente constante. Ah mon dieu, derrière cette porte, il sent tout un profond. Non, non, il y a une pauvre vieille femme qui n'a rien à voir. Et on donnera comme exemple scénario de ce type-là, le scénario d'Auville, du supplément Les Années Folles, que Wolf et moi ne.
Les Années Folles, évidemment.
Bien sûr que nous possédons. Nous n'avons pas acheté à prix d'or, car nous sommes des grands collectionneurs. Et donc voilà un exemple. Donc ça c'était la première façon, une enquête. On rajoute un peu de Lovecraftien dedans et on arrive à la deuxième façon de jouer, le dosage Lovecraftien.
Plus des suggestions monstrueuses, les ombres, et puis petit à petit on va s'y amener au mythe, mais pas directement encore.
Tout à fait. C'est là il y aura du mythe, mais il ne va pas intervenir tout de suite. C'est ce qu'on pourrait se faire sans lever de polémique, parce qu'il n'y a pas de polémique vu que nous avons forcément raison, mais c'est ce qu'on pourrait le plus rapprocher, je dirais, de l'œuvre de Lovecraft, en ce sens que le mythe est là, il est en filigrane, on sait qu'il est présent parce qu'il y a des indices, des traces, des odeurs, des textes, ce genre de choses. la folie est présente.
Et tout monte en faible courte courbe en puissance. En fait, c'est pas directement, c'est-à-dire qu'on va progressivement assimiler des indices qui vont nous mener vers une espèce de révélation finale, quelque chose un peu d'inéluctable.
Tout à fait, c'est vraiment le dosage de pas mal de nouvelles de Lovecraft, c'est-à-dire que une fois qu'on en est conscient, on n'est pas face à une situation dont on pourra sortir sereinement et peut-être vivant. Donc le but, sachant qu'on va atteindre cette extrémité-là, c'est d'y arriver le plus doucement possible par petites touches, quitte à ce que eh bien les personnages, les PJ, vos investigateurs fuient tout bêtement, hein, il n'y a pas de honte à fuir. Ouh non, non, il n'y a pas de honte à fuir.
Fuir
Mais
dans la folie, par exemple.
voilà, fuir en courant, nuit dans les bois, en susurrant des choses aux arbres et aux feuilles, en leur parlant d'un danger qu'ils poursuivent. Il ne faut pas entrer hein, dans un purisme donc qu'on a cité pédant au départ. Hein. Ce n'est pas là la seule façon de jouer, car c'est celle qui se rapproche le plus des récits du maître. Bon, c'est une façon de jouer comme une autre. On
Ouais,
se bat
on n'est
des
pas
temps.
obligé de citer toutes les nouvelles à chaque fois qu'on joue non plus. L'autre petit désavantage, c'est qu'on finit par, en tant que PJ, donc joueur, on finit par devenir un petit peu plus spectateur à constater les faits du scénario, plutôt que de pouvoir faire quelque chose.
Tout à fait. Et le fait des spectateurs nous amène à la troisième façon de jouer, l'historico-poulpique, comme nous l'avons appelé judicieusement. Vous êtes toujours judicieux. Donc là, ben, comme le nom l'indique, on prend, en réalité, on va prendre pour le scénario ou pour la campagne,
Une
appui
encyclopédie complète.
en 12 volumes, avec laquelle vous pourrez bastonner vos joueurs si ce n'est trop énervant. Là, vraiment, vous vous basez sur des faits historiques réels. Des situations réelles comme des catastrophes, l'inondation de 1910, le crash du jeudi noir dans
Alors le
les années
crash du jeudi
1939.
noir.
Voilà, exactement. Ce sont des choses qui ont eu réellement lieu. De là, vous mettez une couche de poulpe dedans pour expliquer ce qui a honteusement été expliqué par des causes naturelles ou humaines, l'expliquer par des causes poulpiques. Le gros danger, n'est-ce pas, c'est
C'est de tomber au tout explicatif du mythe par rapport à l'histoire. Par exemple, Capone, en fait, vous ne le saviez pas, mais c'était un profond.
Ou alors Sherlock connaissait le mythe.
Ah, et ça, c'est pourtant écrit dans un des scénarios du supplément de Cthulhu by Gaslight. Donc, quel
Oui,
est le
en
mythe?
plus.
Et il peut
Donc
aider les joueurs.
voilà, exactement. Donc là,
Au
ne
secours.
pas rentrer dans le travers, j'irais, de tout expliquer et d'en faire trop, bien calibrer ça en face de vos joueurs. Si vos joueurs sont comme moi, nuls en histoire, essayez pas de faire des ronds de jambes plus que ça, mais
C'est fait dire.
rajouter quelques éléments historiques. Par contre, peut toujours donner plus de crédibilité. Mais là, c'était vraiment de l'historico-pulpique. Le suivant, donc l'horreur est à nos portes. Là, on est de plein pied, pardon, dans le
Dans
mythe.
le mythe, on n'en reviendra pas.
On va même le croiser, n'est-ce pas? C'est
Ouais.
pour ça qu'on n'en reviendra pas. Là, vous sortez votre batterie de créatures. Allez, les profonds, les chocottes, c'est parti! Donc là, vous les sortez bien, hein.
Et évidemment, les PJ vont les rencontrer, se retrouver confrontés rapidement. Donc là, le village de Profond est tout indiqué, par exemple.
Voilà, une petite cure thermale à Innsmouth est fortement compromise par l'arrivée de profonds en horde. On rentre dans le classique, hein, je dirais aussi c'est un des classiques, l'horreur à nos portes, c'est-à-dire le complot, la secte, les sectateurs voués à la fin du monde. On se porte vers un final apocalyptique. Miam, miam. Les créatures qui vont être révélées dans leur intégralité, même la créature principale, hein, on
Ouh.
n'hésite pas à invoquer un Nyarlathotep ou un Yogg-Sothoth, advienne que pourra, même si c'est juste un bulbe qui sort du portail, ça fera déjà claquer pas mal de personnages, pas mal d'investigateurs, mais là, on est dedans. Le suivant?
On peut un peu s'en éloigner de ce mythe omniprésent par le film d'horreur et de tension. Alors là, on balance plus entre 50% du mythe, 50% de psychopathe.
C'est pour toi, Wolf. C'est que seul pourcentage. En effet, là, on peut utiliser ce qu'on appellera un PNJ pour une enquête un peu double,
Ouais,
c'est-à-dire
pas forcément croisé, qui peut être complètement parallèle à l'histoire du mythe.
Tout à fait. De plein pied dans l'horreur, donc des crimes atroces. On peut même se faire un épisode des experts, un peu horrible. Là, le principe, c'est de sombrer rapidement dans l'horreur. Donc bien faire attention, hein, comme toujours, à l'appel à votre public. Quand vous commencez à décrire, nous essaierons de ne pas faire peur aux gens sur le podcast. Enfin, pas maintenant. Le fait est que là, on rentre vraiment dans le gore, des scènes un peu atroces. Et donc...
Avec une tension bien présente, chaque couloir, chaque porte est un danger. Qui sait ce qui se cache derrière? Vous surveillez vos arrières?
Oui, on peut même, je dirais, utiliser les clés des films d'horreur avec le rebondissement, la créature qui se relève alors qu'on croyait avoir fini, la porte qui claque, ce genre de choses.
La musique de Psychose.
Voilà, musique et ce genre de choses sont bien sûr les bienvenues et fortement conseillées, des scènes fortes et du gore. Pour en arriver, après cette façon film d'horreur, à la dernière alternative,
Une apothéose.
l'apothéose. La dernière, bien sûr. La meilleure. Que dis-je, la meilleure? Il faut tous essayer cette alternative, l'alternative pulpe, et non pas poulpe. Donc là, on est de plein pied dans Indiana Jones 2. Je me rappelle plus du titre, donc on va dire 2.
Temple
Donc
maudit.
les, c'est
Le temple maudit.
le temple maudit avec donc les sacrifices, la secte. Mais là, les personnages qui, par rapport, j'ai en contradiction avec les façons de jouer, les deux façons de jouer précédentes, c'est-à-dire l'horreur à nos portes et les films d'horreur. Là, c'est du pulp, c'est de l'action. Les joueurs ont toujours une possibilité de s'en sortir.
De
Bah,
faire des
faire des.
super cascades
Ouais.
sur la rambarde du
Ouais,
canon
voilà.
central du bateau à vapeur.
On glisse sur le dos devant les portes pour balancer des coups de flingue. On se lance. Les méchants sont hauts en couleur. Ils ont des petits accents. Quand ils sont méchants, on les reconnaît comme ça.
Ouais, presque proche de certains comics américains finalement.
Tout à fait. On peut même se lâcher jusqu'à ce que le méchant donne son plan alors qu'il a capturé les PJ. Sachant bien sûr qu'en donnant son plan, cet imbécile s'est condamné lui-même. Plein de rebondissements, des PNJ hauts en couleur, des aventuriers, enfin voilà quoi, des statues maudites, des choses
Avec
comme ça.
une époque bien marquée quand même, les 30 ou les 40.
Voilà,
C'est plus difficile quand même de faire du pulp sur du gaslight.
tout à fait, ça passerait plus mal, en effet, du pas dans le gaslight, ça serait un peu plus difficile. Donc là, nous avons résumé les façons de jouer, les six façons, l'enquête à la Sherlock, le dosage Lovecraftien, l'historico-pulpique, l'horreur est à nos portes, le film d'horreur et de tension, et l'alternative pulp. Avec ça, vous avez toutes les façons de jouer à l'appel,
On est pareil.
mais une partie de l'appel ne serait pas une partie de l'appel sans ces fameux fondamentaux. Eh oui, ma chère Simone, lâchez les
Compris.
fondamentaux! Donc le premier, vu que nous allons les attaquer dans l'ordre, la première chose qui caractérise un des fondamentaux de l'appel, c'est bien sûr l'époque, les années 20, qu'il va falloir gérer, n'est-ce pas? En créant une vraie ambiance années 20. Alors là, je dirais que c'est à vous de faire un effort, hein. Tout le monde le sait, le jeu de rôle demande quand même un peu de travail. Donc là, photos, livres, films, il faut que vos années folles aient l'air crédibles. Il faut absolument que vous soyez dans une ambiance vraiment, je dirais, typique, avec voiture, habillement, comportement, ce genre de choses.
Alors ça, à la fois en termes de description et date de jeu, bien sûr.
Tout à fait. Les aides de jeu que vous trouverez sur Toc, mais que vous devez rendre aussi crédibles que possible en prenant des noms de, je dirais, de journaux de l'époque, des noms d'entreprises de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a que...
Hôtel international.
Le fameux hôtel international, le retour. Il faut vraiment qu'on sente qu'on est dans l'époque. Donc là, vous pouvez rajouter des petits éléments historiques. Il faut que la vie quotidienne, vous en ayez. Vous n'êtes pas obligé de la maîtriser dans son intégralité, mais il faut que vous en ayez les plus grandes notions. Que les voitures roulent pas vite, que. Enfin, ce genre de choses. Qu'on
Le
s'habille de
téléphone qui
façon très claire.
marchote.
Tout à fait. Et ça, à ce niveau-là, je dirais que c'est un peu votre culture. Votre culture générale, vos lectures et tout ça qui vont vous y aider. Car le second point, donc c'est donc la gestion de l'enquête. Car on sait bien qu'à une partie de l'appel, on est réveillé 10% du temps et on dort 90% du temps. Car 90% du temps est réservé à l'enquête.
Alors, ce qui est simple avec une enquête finalement, c'est que en se mettant un peu à la place du joueur, on l'a tous été, c'est qu'on s'attend dans une enquête à quelque chose, un schéma classique du crime mobile et quel est le coupable. Pour résumer une enquête de base, c'est ça.
Tout à fait. Et donc, à vous, je dirais, de maîtriser la chose. très important ce qu'on vient de dire, de se mettre dans la tête du personnage, car il faut que les déductions paraissent aussi logiques que possible. Les indices doivent arriver, je dirais, de façon courante pendant le scénario. Ne
Alors,
pas.
sans les donner systématiquement, mais bon.
Exactement, exactement. Les indices, le fait d'aller chez un des PNJ pour lui tirer des informations, va pas faire que automatiquement il va vous donner des informations. L'indice, il vous le donnera peut-être au bout de 3 fois, 4 fois, la 5e fois, il en aura tellement marre qu'il vous donnera l'indice.
À la japonaise, pour les cadeaux.
Exactement. Il faut essayer de faire que vos joueurs poussent l'enquête dans ces retranchements. Ils ont tous lu des livres ou vu des films avec des enquêtes, il n'y a pas de souci
Et
là-dessus.
d'où l'importance justement de PNJ qui sont récurrents, qu'on va retrouver à divers points de vue. La petite vieille que vous avez interrogée la première, elle a d'autres contacts à qui elle va parler de la gentillesse de ce monsieur qui est venu prendre le thé avec elle,
Ah, il était charmant, ce monsieur.
ou au contraire, comment vous l'avez maltraité en refusant son thé, en la traitant de sale vieille.
Tout à fait, elle a peut-être lâché l'info à toutes ses copines du quartier et toutes les portes vous seront fermées. Ah, je sais qui vous êtes, partez! Et là, c'est fini. Donc, bien sûr, à vous après de lâcher d'autres pistes. Et puis, ces amitiés, ces inimitiés, enfin, on va parler plutôt des amitiés là, peuvent donner un peu plus, déjà donnent plus de consistance à vos PNJ. Ils se souviendront de la petite vieille, hein, de la vieille Morissette qui les a beaucoup aidés. Et quand vous l'aurez étripée, écartelée sur la voie publique, un soir pendant un sacrifice, la scène ne sera que d'autant plus poignante. Ah, Morissette, celle qui nous a tant aidés, finir comme ça, une jambe à droite, un bras à gauche à 200 mètres, c'est horrible.
Ouais, ça permet de doubler finalement l'enjeu final, sauver le monde ou sauver notre peau, à sauver aussi ce personnage qu'on a fait vivre, qu'on a aimé ou détesté au choix. C'est assez important justement d'essayer de faire attacher ces PNJ
Voilà, et en
au.
plus ils sont toujours dans un quartier, ils commencent à se familiariser avec le quartier, ils connaissent les petits gamins, ils connaissent le vendeur de journaux et tout ça.
C'est d'ailleurs une forme d'indice, parce que un immeuble qu'on a vu une première fois, où on a vu justement qu'il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient au pied de l'immeuble, et quand ils reviennent pour gauler leur indice comme des misérables PJ qu'ils sont, les enfants ont disparu. Il n'y a plus qu'un horrible chat qui traîne.
Il ne reste que le petit cerceau du petit Grégory. Mais l'enquête impose surtout un bon dosage du ratio, le ratio enquête-action qui est à l'appel. Il ne faut La chose importante, c'est qu'il faut que ce dosage soit fait de façon intelligente. Ce n'est pas parce que dans le scénario, il y a marqué qu'il y a une scène d'action à cet instant-là, au moment où ils vont voir la vieille, que la première fois où ils vont voir la vieille, vous allez balancer la scène d'action avec le chat qui leur bondit au visage et ce genre de choses.
Ouais, c'est une façon de justifier en fait son action. Si on place purement et simplement une scène d'action comme ça là, voilà, parce que vous avez envie ou parce que c'est écrit dans le scénar, là il y a toutes les chances pour que les joueurs se disent que c'est téléphoné et vous perdez justement l'effet de la scène d'action.
Voilà. Alors que si la scène d'action se passe la troisième fois qu'ils vont chez la personne, à ce moment-là, ils se diront, attendez, il faut peut-être qu'on retourne voir une des personnes qu'on a été voir et qui nous a rien filé la dernière fois. Peut-être qu'il va nous donner quelque chose.
Donc ça
Peut-être
permet
pas.
aussi de réorienter une enquête. Ah, est-ce que le gardien nous donne un signal que ou on brûle, ou au contraire on est en train de faire n'importe quoi.
Et puis, tout à fait, puis refiler un coup de boost. Si vous sentez que trop d'enquête tue enquête, n'hésitez pas à placer une petite poursuite. Alors, une poursuite, ça peut être une poursuite en voiture, mais ça peut être une poursuite dans une bibliothèque avec un type qui n'a peut-être à voir ou rien à voir avec le scénario, qui s'en va avec le bouquin qu'il cherchait depuis des heures et après une réussite critique sur le G, ben c'est con. Le type se barre avec, vient de le claquer et commence à courir dans les travées, quoi. Il faut bien doser.
Et vous lui courez après et vous finissez par tomber nez à nez avec une horreur sans nom.
Ou alors, vous retombez sur une petite vieille que vous avez croisée dans le quartier, mais vous ne saviez pas, elle était gardienne dans la bibliothèque. Ah, encore vous! En train de foutre le bordel! Et là, vous avez fait un multiple emploi de vos PNJ, les types sont arrêtés, sont en catastrophe, ils voient le type se barrer avec le bouquin, enfin c'est le bordel. C'est le bordel, mais ce n'est rien face à l'horreur. Car, à ce point, merci pour la transition, merci public. Car un des derniers, et je dirais des plus importants points fondamentaux de l'appel, c'est l'horreur. L'horreur va frapper. L'horreur est à nos portes. Sortez, vos morts! L'horreur est là. L'horreur ne va pas arriver comme ça. Ce n'est pas, on n'est pas dans le film d'horreur. Hein. Vous n'avez pas installé une scène pendant 20 minutes avec un aspect visuel direct et puis de la musique comme ça peut se passer dans un film. Vous allez devoir déjà injecter beaucoup d'anticipation.
Alors oui, comme on l'a vu juste avant avec avec l'immeuble, on peut le faire aussi bien tout simplement purement en scène de description avec des petites ombres que les joueurs n'avaient pas remarquées avant, des craquements, ou alors un PNJ récurrent, cette fameuse petite vieille qui commence à devenir légèrement menaçante. Est-ce qu'elle a pas les yeux qui ont changé de couleur? Est-ce que
Ouais,
elle a
bah,
cet
pose trop de
étrange
questions.
rictus qu'elle n'avait pas tout à l'heure?
Ouais, c'est bizarre. Puis c'est elle qui cuisine du poisson tout le temps, parce qu'il y a toujours une odeur de poiscaille dans son appartement. C'est assez ignoble. Donc
Ou
là,
les bruits de
anticipation.
pas qu'on n'attendait pas aussi, par exemple. On sait que tel PNJ est censé être seul, on entend marcher, on entend deux couples de pas marcher distinctement.
Tout à fait. Le vieux capitaine qui habite au-dessus se déplace en boitillant. Et là, vous l'entendez trottiner. Il se déplace dans la pièce assez rapidement. Puis commence à faire glisser une espèce de malle sur le sol, mais il ne semblait pas aussi robuste. Et voilà, vous avez créé un peu d'anticipation, alors que c'est peut-être le petit neveu qui est venu aider son papy. Et puis voilà, c'est fini. Attention, pour gérer l'horreur, il y a l'anticipation, mais bien sûr, vous avez toute la batterie, la ménagerie. Le cirque
Le cirque
Panair!
Panair des monstres.
Des monstres que vous allez devoir sortir.
Alors ouais, vous n'êtes pas obligé de sortir toute la toxicologie des monstres,
Mais non,
c'est
ça serait
pas la
énorme.
peine. D'abord, ça tiendrait pas,
Les
soyons clairs.
gigantesques. Énorme.
Vous passeriez votre temps à énumérer chaque monstre. Et puis bah ensuite bah,
Et puis
non
il faut trouver
seulement
le monstre qui correspond
Oui,
à vos
voilà.
joueurs. Vos joueurs sont aguerris? Ok, bah balancez-leur un putain de chien Tindalos. Vous allez voir, quand ils pourront plus se réunir dans une pièce rectangulaire avec des angles, ils vont moins faire les marioles. Vos joueurs sont débutants? Oh, une petite goule qui traîne un peu le pied, avec quelques chicots de viande encore fraîche entre les dents, et puis voilà, vous avez votre monstre. Dosé.
C'est amusant de jouer aussi sur les clichés, justement. Tu parlais tout à l'heure d'odeur de poisson, donc dans la tête du joueur chevronné, ça rime avec profond, évidemment. Alors, bien sûr, vous pouvez inventer. Bon, il y en a d'autres, hein, des monstres sous-marins qui sont pas forcément des profonds. Ça peut être assez sympa,
Le grand
justement,
amphitho, par exemple.
de rebondir là-dessus avec son bonnet rouge, très dangereux.
Vous avez votre ménagerie, mais pour vraiment que l'horreur prenne pied, il faut finalement mettre on est d'accord, Wolf, il faut mettre les
Ouais,
investigateurs devant
on est
des
d'accord.
situations où ils ne savent pas quoi faire. Il faut
Ouais.
les pousser. Il faut montrer que le mieux, il faut montrer que même vous, bah vous n'avez pas d'idée de comment on peut s'en sortir. Il faut pas que vous soyez là, confiant et tout ça. Une très bonne méthode pour faire peur, c'est de montrer que vous aussi, la situation commence à sortir de votre contrôle. Comme si vous leur faisiez croire que vous avez voulu décrire quelque chose et que vous contrôliez plus et que ça va être trop horrible et que finalement, et là, ils vont passer en mode panique.
Comme
Ça,
si ça vous dépassait, ouais.
c'est l'idéal, hein, je dirais que c'est l'idéal, mais ils ont l'impression que c'est inéluctable. Ils sont enfermés dans la cave, les grattements se font de plus en plus forts, les briques commencent à bouger, ils savent ce qu'il y a derrière, ils ont regardé le cadastre, il y a plus de sortie, la petite vieille a bloqué la porte avec son balai. Enfin voilà, il faut les mettre dans des situations de stress. Alors bon, dans cette situation-là, soit les gens ont des super idées, soit ils ont des idées à la con. Hein. On vous expliquera dans un prochain
Voire,
podcast
ils n'ont
comment
pas
sortir les
d'idée du
gens.
tout.
Pas d'idée du tout, ils vous regardent l'air un peu les yeux exorbités comme le profond de base.
Et ils sentent le
Genre,
poisson.
oh, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ces cas-là, bon bah changer d'équipe. Il n'y a pas d'autre solution. Mais la
Massacrer les
plupart.
tous.
Voilà. Il faut pas hésiter. L'important dans l'horreur, c'est de leur montrer que vous êtes capable de tout. Mais la plupart du temps, dans un groupe, il y aura toujours une personne qui aura une bonne idée, pas forcément une idée à laquelle vous aurez pensé, mais qui vous paraîtra bonne sur le moment. Et dans ces cas-là, ils pourront s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Il faut faire très attention parce que vous avez un public face à vous et ils ne réagiront pas de la même façon. Si vous avez une audience plutôt jeune, basez-vous sur déjà des clichés qui leur plairont, tournant le scénario plutôt à la Scream avec de l'horreur, des nanas à fort potentiel pulmonaire en train de courir.
Et de mourir.
Des athlètes complètement décérébrés qui ne peuvent qu'ouvrir des portes
Comment
avec
tu
une
vois le
épaule.
jeune?
Pauvre jeune, si tu nous écoutes. Non, mais moi je suis passé par là. J'ai fait de très amusants scénarios avec ça. Quand on connaît son équipe, il faut qu'on joue sur ses peurs, il faut qu'on joue sur ce qui va la faire réagir. Hein. C'est très important. Et bien sûr, dernier point important, il va falloir se montrer réglo.
Ah oui, point de vue mécanique des règles, là, oui, complètement. Faut pas non plus, bon bah voilà, vous êtes derrière l'écran, c'est vous qui gérez l'horreur, les monstres, les situations, donc de toute façon, l'inéluctable, c'est vous l'arbitre, on peut pas s'en sortir ou on peut s'en sortir suivant qu'on fasse plaisir au gardien ou pas.
Exactement, ça c'est nul. À
Ça, faut
chier.
l'éviter.
0, 2, caca.
C'est beaucoup plus marrant de sortir les jets de dés, pas tout le temps, pas forcément, faut pas non plus trop les habituer.
Je te vois venir.
Faut lancer par exemple les jets de dés devant l'écran au moment où le joueur a misérablement foiré son esquive et que vous éviscérez.
Ah, c'est bon, ça. On le tranche en deux. De droite à gauche. En passant de
Ça
l'épaule
vous
droite à
permet
la
de
hanche.
vous donner une crédibilité impartiale et surtout de faire monter la puissance du hasard. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, bon, c'est qu'on est finalement on est dépassé. Ce sont les règles
Même le
et
maître.
le jeu. On est dépendant du jeu et du coup on prend toute cette puissance qui va nous exacerber
On se
mais
dresse au-dessus de sa chaise, on se balance au-dessus de l'écran et on dit, tiens, voilà, voilà comment tu peux en santé mentale. Et là, les deux D10 commencent à rouler. Et alors là, regardez la tête de vos joueurs, parce que, mais attention, hein, vous devez assumer, vous êtes réglo. S'il fait 99 en santé mentale comme perte, va falloir gérer derrière.
Ah oui, ça c'est à double tranchant, évidemment.
Mais vous l'aviez prévu. Si vous l'aviez pas prévu, on va vous aider à le prévoir pour d'autres parties dans d'autres podcasts.